La baisse des taux d'intérêt de la Réserve fédérale des États-Unis, le pivot de la Fed, est-il menacé par la victoire de Donald Trump et par une seconde vague d'inflation prospective en 2025? Point complet. Chers amis, je suis ravi de vous retrouver. Nous connaissons donc quelle sera la prochaine administration américaine en 2025. Et beaucoup craignent que cela vienne complètement briser tous les efforts faits depuis 2022 pour briser l'inflation. C'est vrai que l'inflation est revenue proche de l'objectif de la Fed, mais attention, tous mes indicateurs avancés d'inflation clignotent, alerte orange. L'inflation va rebondir en cette fin d'année. Donc déjà, l'inflation va rebondir en cette fin d'année, rien à voir avec l'élection de Donald Trump. Mais effectivement, vous l'avez noté, depuis début octobre, les taux d'intérêt du marché ont rebondi, le dollar américain a rebondi, et je vais vous présenter ça dans la première partie, alerte orange sur tous mes indicateurs avancés d'inflation, remontée verticale de trueflation, l'inflation temps réel, qui est passée de 1 à 2,70 en 3 semaines, qui n'est pas ça. Alors heureusement que j'ai d'autres indicateurs avancés d'inflation, mais effectivement, il va y avoir. Nous n'allons pas passer sous la cible de la Fed cette année. L'inflation nominale va remonter à 2,7, 2,8. L'inflation sous-jacente, elle, va probablement être au-dessus de la cible de la Fed de fin d'année. Donc la question est, la baisse de taux de la Fed, il reste une décision de politique monétaire de la Fed cette année. C'est le 18 décembre. Le marché attend encore 25 points de base de baisse de taux. C'est cette décision-là qui est menacée. Et alors, le Fed Cut Pass de 2025, là, pour le coup, nous serons sous administration Trump. La guerre commerciale, les baisses d'impôts, l'impact potentiel inflationniste, hausse des taux d'intérêt du marché. Bon. Et quelle réaction de la Fed? Que va-t-elle faire? La question est là. Alors que l'inflation est entendue en petit rebond, j'insiste, d'ici la fin d'année, la nouvelle administration américaine menace-t-elle de transformer ce petit rebond en une seconde vague d'inflation? Et alors là, chers amis, ça va devenir compliqué. Mais la messe n'est pas dite. Donc c'est le sujet que je vais traiter. Donc première partie, alerte orange sur les indicateurs d'inflation. Je dis bien alerte simplement orange. C'est simplement, alors vous savez, au final même, si là l'inflation avait chuté sous la cible de la Fed, c'était le signal d'une récession. Donc au final, c'est pas si mal. Mais tout de même, première partie, alerte orange. Deuxième partie, l'arrivée prochaine, donc à partir du 20 janvier 2025, d'une nouvelle administration fédérale républicaine, et en particulier la politique commerciale agressive que Donald Trump envisage de mettre en place. Il a bien dit qu'il tiendrait toutes les promesses de sa campagne, tout le plan politique annoncé, économico-politique annoncé lors de sa campagne. Enfin, nous verrons bien. Ça, c'était pendant la campagne. Il a dit beaucoup de choses pendant la campagne. Mais est-ce inflationniste? Alors, pour répondre à cette question, ben déjà, on va voir ce qui s'est passé entre 2016 et 2020. C'est pas si évident que ça. Troisième partie, le pivot de la Fed est-il menacé? Alors, le pivot a eu lieu en septembre. La Fed a baissé ses taux. Nous en sommes maintenant à 75 points de baisse, 75 points de base de baisse de taux. Il reste une décision de politique monétaire, là, le 18 décembre. Le marché se projette encore sur 25 points de base, mais d'ici là, il y a deux mises à jour de l'inflation, une mise à jour du marché du travail, il reste un rapport NFP, celui de décembre, il reste deux CPI et il reste deux PCE. Et effectivement, si vous prenez par exemple l'algorithme de la Réserve fédérale de Cleveland, qui est l'outil de la Fed, les deux CPI et les deux PCE qui tombent en novembre-décembre devraient voir un rebond de l'inflation. Alors, pas une seconde vague d'inflation, mais là, ce rebond de l'inflation, qui est pour beaucoup lié à des effets de base, mais pas que, il y a un vrai souci avec l'inflation des services. Pas l'immobilier, là on a de la visibilité, ça va baisser, mais tous les autres services, il y a un souci. Alors, donc cette inflation va rebondir. L'idée, c'est que en janvier, Trump arrive, il ne faut pas qu'il transforme ce petit rebond en une seconde vague. Et là, le pivot de la Fed serait menacé. Et alors là, le marché action. Mais nous n'en sommes pas là. Je vous fais aussi donc quatrième partie. Vous avez cette semaine, et eh bien on commence voilà, d'entrée de jeu. La mise à jour de l'inflation CPI, mercredi 13 novembre. Il va bien falloir distinguer l'inflation nominale qui va rebondir, c'est certain, par des effets de base, notamment l'alimentation et le prix du pétrole, de l'inflation sous-jacente qui, elle, peut-être va continuer légèrement de baisser. Donc c'est tout ça que nous allons regarder. Cinquième partie, victoire de Trump, marché action. Je vous en ai parlé dans le Top Gun la semaine dernière, je vous ai montré, mais là j'estime avoir certains secteurs vont vraiment clairement profiter de l'arrivée de Trump. Tout ce qui est lié à la dérégulation. D'autres secteurs, il faut être plus méfiant. Je vous refais un petit topo là-dessus. Et enfin, on termine sixième partie, par le point technique S&P 500. Et je suis très content, car il s'inscrit parfaitement dans le décompte Elliottiste que je vous propose depuis des mois. Cette fameuse vague 5, vague 3 de 5. Donc, où est-ce que nous en sommes? C'est parti. La baisse des taux de la Fed est-elle menacée donc, par une seconde vague d'inflation US et par la victoire de Donald Trump? Le programme, je vous l'ai détaillé à l'instant, il s'affiche à nouveau sous vos yeux. Première partie, alerte orange, les indicateurs avancés de l'inflation US. Deuxième partie, la victoire de Trump est-elle inflationniste pour 2025? Troisième partie, le pivot de la Fed est-il menacé? Je parle des 25 points de base que le marché attend, espère, le 18 décembre prochain. Inflation CPI du mercredi 13 novembre, la crainte d'un rebond hors de contrôle. Cinquième partie, victoire de Trump, les vrais actifs financiers gagnants. Marché action, point d'analyse technique, S&P 500. En sixième partie. Les indicateurs avancés de l'inflation US passent en alerte orange pour la fin d'année. Qu'est pas ça? Que se passe-t-il? Alors, vous savez que lorsqu'on parle d'inflation, nous parlons du CPI, du PCE et du PPI. Et lorsque je parle d'indicateurs avancés d'inflation, eh bien, je n'utilise pas que Trueflation. Voici donc mon tableau actualisé des indicateurs avancés d'inflation. Colonne de gauche, indicateur avancé pour l'inflation US. Colonne de droite, diagnostic actuel. Et effectivement, il y a des signaux d'alerte orange. Je n'ai pas dit alerte rouge. Alors, Trueflation en rebond vertical depuis le début du mois d'octobre. Effectivement, alerte orange sur certaines composantes clés de Trueflation. Même si je vous rappelle qu'il n'y a pas de lien direct entre Trueflation, qui est l'inflation temps réel, et les mesures qu'utilise la Fed, le CPI, le PCE et le PPI, les composantes ne sont pas les mêmes, les méthodes de calcul ne sont pas les mêmes, mais Trueflation est censé être la vraie inflation que subissent les Américains. Effectivement, voilà que depuis un mois, même, regardez, hein, nous sommes passés de 1,01 à 2,70. C'est quand même énorme. Ça fait seconde vague d'inflation. Mais prenez déjà du recul. Voilà ce que fut la vague d'inflation Covid. C'est monté à 12. En réalité, là, nous sommes plutôt entre 2 et 3. Nous sommes plus ou moins revenus au monde d'avant. Le Trueflation avant la crise sanitaire, dans le monde d'avant, évoluait entre 2 et 3. Alors que l'inflation officielle était entre 1,5 et 2. Donc en fait, faut pas, effectivement, ce qui n'est pas bon, mais c'est surtout lié à des effets de base. Ce qui n'est pas bon, c'est cette remontée verticale. Quand je parle d'effet de base, je vais vous donner l'exemple notamment du pétrole. Vous savez, un taux d'inflation annuel, c'est bête et méchant. Un taux d'inflation annuel, vous prenez par exemple là le prix du pétrole en novembre 2024 et où était-il en novembre 2023? Bon bah, alors, voilà où est-ce qu'il était en septembre. Voilà où est-ce qu'on était, nous, ici en septembre. Il y avait un delta très négatif. Mais comme l'année dernière, à la même période, le prix du pétrole a baissé, bien regardez, on se retrouve en novembre-décembre ici, on est au même niveau. Donc, il y a encore deux mois, la contribution du pétrole à la désinflation, c'était énorme. C'était moins 15, moins 20. Là, c'est juste revenu à zéro. Et comme l'inflation des services est plus élevée, ça fait logiquement remonter le taux d'inflation. Donc, il y a déjà un effet de base. Mais ça, je vais creuser le sujet dans un instant. Donc, effectivement, Trueflation est en rebond. Mais pas d'alerte dans le sens où la véritable alerte, ce serait de dépasser 3 et de continuer de s'envoler verticalement. Là, il y a un souci. Mais tant que le Trueflation reste dans un range 2-3, il n'y a pas d'alerte. Alors après, si vous regardez effectivement les composantes, c'est alors en grande partie liée à un rebond de l'inflation dite des transports, elle-même liée en fait à un rebond du prix de l'énergie, en tout cas non, à un effet de base, à simplement l'effet de base. Il y a oui donc alors l'inflation des voitures qui a remonté à 2,5 effectivement, alors qu'elle était à moins 5, donc là il y a quand même un sujet. Il y a un souci aussi au niveau de l'inflation des services publics. Alors, les biens durables de consommation courante aussi, l'inflation remonte, mais finalement, elle tourne autour de 2, donc ça va. L'inflation vestimentaire, elle, effectivement, est remontée à 5-6. Bon, il y a quand même certains sujets. L'inflation immobilière, elle, est passée de 0 à 1,5. Bon, 1,5, ça reste correct. Donc, en fait, il y a à la fois un effet de base et en même temps certaines composantes clés qui ont remonté tous ensemble, mais qui étaient tombées tellement basses, en fait, que là, le fait de revenir à 2,5-3, c'est finalement revenir à un two-flation du monde d'avant. Et lorsque two-flation du monde d'avant, avant crise sanitaire, était à 2,5-3, l'inflation CPI était à 1,5-2. Donc, voilà, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas d'inquiétude tant qu'on ne s'envole pas au-dessus de 3. Ça, c'est donc la première chose. Mais tout de même, alerte. Alors, là, inflation no casting, ça, vous savez que c'est important à suivre, parce que il s'agit de l'inflation, d'un algorithme que surveille la Réserve fédérale des États-Unis. L'algorithme de la Réserve fédérale de Cleveland nous indique que pour octobre et novembre, donc octobre qui est publié en novembre, novembre qui est publié en décembre, oui, toutes les métriques de l'inflation rebondissent. Alors attention, surtout l'inflation nominale. Le CPI est actuellement à 2,4 cette semaine, d'après nos castings. Donc un outil de la Fed de Cleveland, il va monter à 2,56, puis 2,67. Pour le PCE, le PCE est actuellement à 2,01. Il devrait remonter à 2,23, puis 2,47. Oui, ça fait peur, ça. Ça, on ne s'attendait pas à ça. Mais en même temps, rappelez-vous, si l'inflation avait droppé sévère sous 2, c'était la récession. Donc ce n'est pas une mauvaise nouvelle. Ce qui serait une mauvaise nouvelle, c'est de remonter à 3, 4, 5. Mais si en fait, là, on se maintient entre 2 et 3, c'est pas une mauvaise nouvelle. Oui, c'est pas l'inflation du monde d'avant, mais c'est aussi la confirmation que nous ne sommes pas en récession. Je parle de l'économie américaine. Par contre, là, il y a un sujet. Le core PCE, c'est ce que regarde la Fed. La Fed nous avait dit que son objectif pour décembre, c'était 2,6. Nous sommes actuellement, le core est actuellement à 2,65. Et le no-casting nous dit que ça va rebondir à 2,74, puis 2,88. Ça, c'est pas bon. Si effectivement nous avons un core PCE à 2,88 sur la mise à jour de novembre publiée en décembre, nous n'aurons pas de nouvelle baisse de taux le 18 décembre. Mais c'est pas sûr, l'algorithme se plante parfois. En tout cas, c'est ce qu'il prévoit maintenant. Alors, un peu d'optimisme quand même. La contribution de l'immobilier va continuer de baisser lorsque vous comparez les indicateurs d'inflation immobilière temps réel avec l'inflation immobilière officielle. Là, vous avez l'inflation immobilière temps réel qui est entre 1 et 3, comme dans le monde d'avant. Dans le monde d'avant, l'inflation temps réel immobilière était égale à l'inflation officielle. L'inflation officielle est encore à 5. Donc nous savons que l'inflation immobilière officielle va perdre encore 2 points de pourcentage. Et je vous rappelle que l'inflation immobilière officielle, ça pèse 30% du CPI et 20% du PCE. Ça, c'est plutôt pas mal pour l'inflation sous-jacente. Ensuite, vous avez la composante inflation des PMI. PMI des services et PMI manufacturiers. Le message d'ensemble est neutre. Donc là aussi, pas de panique. Alors, il y a un léger rebond de la composante inflation du PMI manufacturier, mais globalement qui est au niveau du monde d'avant. Par contre, la composante inflation du PMI des services, et je vous rappelle que l'économie américaine et nos économies occidentales sont surtout des économies de services, et que les services représentent l'essentiel du PCE, qui est l'indice favori d'inflation de la Fed, eh bien, nous sommes en baisse, même légère récemment, et parfaitement au monde d'avant. Donc, j'aurais même plutôt dû mettre en optimiste. Mais les indicateurs avancés d'inflation que sont ici la composante inflation des PMI ne donnent pas d'alerte. Donc au final, two-flation donne une alerte, mais on a compris que c'était pour des effets de base et un peu de rebond d'inflation. No casting donne une alerte, mais au final, l'inflation va remonter à 2,7, 2,8, mais c'est finalement mieux qu'un scénario où elle se serait effondrée sous deux. Donc voilà, c'est pour le moment, attendez-vous donc à ce rebond de l'inflation. Il est possible que la baisse de taux de la Fed du 18 décembre soit menacée, alors sauf bien sûr si dégradation du marché du travail. N'oubliez pas, il y a la composante inflation et marché du travail pour influencer la Fed. Et donc, alors ensuite, vous avez donc le prix des voitures en temps réel, je vous l'ai montré. N'oubliez pas aussi les assurances automobiles qui restent à un niveau incroyablement élevé en termes d'inflation et les frais de santé. Et ensuite, vous avez les matières premières. Alors pour les matières premières, en fait, ce qui se passe, c'est que les matières premières ont eu une contribution très baissière à l'inflation par un effet de base. Parce que il y a un an, les prix étaient très élevés. Maintenant, si vous comparez aujourd'hui à il y a un an, c'est à peu près pareil. Et on peut faire le même topo pour l'inflation des matières premières. Donc, c'est simplement que la contribution de l'énergie ne va plus être négative ou moins négative. Alors, la victoire de Trump est-elle inflationniste pour l'année 2025? Vous avez tout d'abord à droite un graphique qui vous montre l'évolution du taux d'inflation selon le CPI sous le premier mandat de Donald Trump, entre janvier 2016 et fin 2020. Effectivement, sous le mandat de Trump, l'inflation a remonté et a eu tendance à se maintenir vraiment dans le haut de la fourchette, entre 2 et 2,5, avant qu'elle chute drastiquement ici au moment de la crise sanitaire. Mais donc il y a eu effectivement une prime inflationniste avec Trump. Sachant qu'avant l'arrivée de Trump, l'inflation était plutôt autour de 1, et avec lui, elle est montée à 2, 2,5. Donc si là, l'inflation remonte à 2,5 et que Trump arrive, certains disent qu'elle va remonter à 4. Voilà les calculs bêtes et méchants qui sont faits. Je dis c'est plus complexe que ça. Alors, effectivement, si ça remonte à 4, ne comptez pas sur des baisses de taux. C'est terminé, on n'ira pas plus bas que les baisses qui auront été faites en 2024. Mais n'en sommes pas là. Alors, la guerre commerciale de Trump avec des droits de douane élevés sur les importations chinoises d'autres produits étrangers a donc entraîné une hausse du prix des biens importés entre 2016 et 2020. Donc c'est de l'inflation importée avec un impact sur le CPI. Des chaînes d'approvisionnement qui peuvent être perturbées, poussant certaines entreprises à chercher des fournisseurs alternatifs. Le temps de faire la transition, ça coûte cher. Il y a des hausses de prix. Souvent, si on se retourne vers des produits fabriqués localement, on se souvient des tarifs sur l'acier, l'aluminium. Bon, il y a eu un certain nombre de coûts qui ont concerné l'industrie, et effectivement, qui pourraient se traduire parce que beaucoup, l'industrie américaine importe beaucoup de produits chinois. Et effectivement, voilà, si ces coûts augmentent, et bien pour le consommateur final aussi. Après, effectivement, nous pouvons donc nous attendre à une augmentation de l'inflation importée industrielle, une augmentation de l'inflation importée dans le secteur manufacturier, mais encore une fois, n'oubliez pas, l'essentiel de l'inflation provient des services. Et alors là, il n'y aura quasiment pas d'impact de la guerre commerciale sur l'inflation des services. Donc c'est beaucoup plus complexe que ça. Il ne faut pas simplement se contenter de dire « voilà ce qui s'est passé lors du premier mandat, j'ajoute 1,5 d'inflation au niveau actuel, du coup on remonte à 4, du coup la Fed à 4, forcément elle pourrait même réaugmenter ses taux ». Enfin, vous voyez, ça part dans tous les sens. C'est plus complexe que ça. Et déjà, attendons de voir concrètement la politique commerciale qui sera mise en place. Mais vous avez quand même sous les yeux un vrai sujet pour 2025. Ça y est, nous tenons notre sujet 2025. Politique budgétaire et commerciale de l'administration Trump versus la Fed. Ou comment la Fed va réagir? Et quel impact sur l'inflation? Ça va être hyper intéressant, on va pas s'ennuyer. Maintenant, revenons à l'immédiat. Le pivot de la Fed est-il déjà menacé si l'inflation rebondit? Je veux dire, il reste, d'ici la fin de l'année, une décision de politique monétaire. Les 25 points de base du 18 décembre sont en question. Comment le savoir? Alors, afin de répondre à cette question, il faut comparer les données d'inflation temps réel et prospective avec les objectifs que la Fed s'est fixés pour la fin d'année. Ces objectifs de la Fed ont été communiqués lors de la décision de politique monétaire de septembre. En réalité, le marché anticipe actuellement une dernière baisse de taux de 25 points de base le 18 décembre. Cela pourrait être menacé, effectivement, si quoi? Si, d'ici la fin d'année, il reste 2 CPI et 2 PCE et 1 NFP. 2 CPI et 2 PCE pour l'inflation, 2 PPI aussi, et un rapport NFP pour le marché du travail. Si d'ici la fin d'année, le PCE core remonte au-dessus de 6, actuellement il est à 2,65. C'est vrai que les indicateurs avancés disent qu'il pourrait remonter à 2,8, 2,9. Le PCE nominal est à 2,1. Les indicateurs avancés disent 2,4, 2,5. Mais encore une fois, c'est ce qu'ils disent maintenant. Tout peut aller très vite. Mais si nous avons un PCE core, notamment core, qui remonte au-dessus, qui va de 8, de 9, oui, la baisse de taux de 25 points de base de la Fed du 18 décembre est menacée. Sauf si le taux de chômage remonte, il est actuellement à 4,1% de la population active, s'il devait remonter en direction des 4,4, la Fed n'hésiterait pas à baisser ses taux le 18 décembre, même si le taux d'inflation core se trouve légèrement au-dessus des 2,6. Car, encore une fois, la Fed n'a jamais dit que l'inflation reviendrait à 2 cette année. Prenez son tableau d'objectifs. Elle vise 2 en 2026. Et oui, j'insiste. Donc, faut pas non plus se surstresser, comme j'ai pu le lire dans certains articles, par ce rebond de l'inflation envisagé léger pour la fin d'année. C'est ce que montrent les indicateurs avancés. Car au fond, la Fed n'a jamais dit, même pour l'année prochaine, elle vise que 2,2. Ça peut aller très vite. Donc là, effectivement, le PCE core va remonter peut-être à 2,7, 2,8 en fin d'année. Mais il va reprendre la direction du sud en 2025. Et en tout cas, il y a toujours l'arbitrage emploi et inflation à bien gérer. Donc c'est comme ça qu'on peut savoir. Alors, inflation CPI, mercredi 13 novembre, la crainte d'un rebond hors de contrôle. Alors, n'exagérons rien, n'exagérons absolument rien. Vous avez à droite un tableau qui vous refait la... Alors, attendez, déjà, première chose que je vous montre, où en est donc l'inflation. Alors, le CPI, la Fed le regarde, mais elle se fixe sur le PCE. Actuellement, le CPI nominal est à 2,4, le CPI sous-jacent est à 3,3. Cette semaine, d'après Inflation Forecasting, on devrait remonter à 2,56 et 3,34. Bon. Alors, cette semaine, ne vous stressez pas si l'inflation nominale rebondit, parce que c'est en grande partie lié, je vous l'ai montré, à un effet de base sur l'inflation énergétique, qui n'a plus de contribution négative, puisque si vous comparez les prix de novembre 2024 à novembre 2023, c'est kiff-kiff. Voilà, pour le coup, octobre, c'est kiff-kiff. Alors qu'avant, il y avait un drop, un delta négatif important. Mais dans le CPI, n'oubliez pas, vous avez 33% d'immobilier. Et je vous ai montré à plusieurs reprises, et encore tout à l'heure, que les indicateurs avancés de l'inflation immobilière nous disent que l'inflation immobilière va baisser. Donc finalement, Inflation Forecasting nous annonce un léger rebond de l'inflation sous-jacente selon le CPI, mais ils peuvent se planter. En particulier s'ils sous-estiment ce que sera la contribution de l'inflation immobilière. Le problème, c'est quoi ? Le problème, c'est qu'il est extrêmement difficile à donner une estimation temporelle du temps qu'il faut pour que l'inflation immobilière temps réel arrive dans l'inflation officielle. Ce mois-ci, ce mois-là, celui d'après, celui encore d'après, on ne sait pas. Ça se joue à 2-3 mois près, on ne sait pas. Donc pour ce chiffre du 13 novembre, eh bien, nous verrons bien. Encore une fois, dites-vous bien qu'il y a une différence énorme de méthodologie entre trueflation et les chiffres officiels. Et regardez, on a vu un trueflation à 1, on n'a jamais vu le CPI tomber à 1. Donc il est possible que là, le rebond de trueflation ne se traduise pas par un rebond du CPI. Puisqu'encore une fois, dans le monde d'avant la crise sanitaire, on était entre 2,5 et 3, alors que l'inflation officielle était à 1,5. Vous voyez donc, attention donc. Il ne faut pas utiliser que trueflation. C'est pourquoi moi j'utilise plusieurs métriques. Mais en tout cas donc, ce mercredi 13 novembre, enfin c'est le temps fort, c'est vraiment le temps fort fondamental de la semaine. Alors ça c'est rapidement, c'est un graphique que je vous ai montré la semaine dernière, enfin un tableau pardon. Donc je ne savais pas que Donald Trump allait être élu, enfin Polymarket le disait, hein. Je vous ai montré ça lundi. Alors Polymarket ça a été superbe, Polymarket a tout annoncé. Je voulais simplement affiner, vous avez sous les yeux les secteurs qui sont favorisés directement par le programme qu'envisage de mettre en place la nouvelle administration républicaine sous Donald Trump. Attention, je pense que il faut rester focus sur là où c'est le plus évident. Trump, c'est de la dérégulation massive. Ça va favoriser la finance et les crypto-monnaies, tout le monde a compris. Moi, pour Bitcoin, vous savez que d'ici fin 2025, je vise 200 000 dollars. J'ai bien dit fin 2025. J'ai pas dit cette semaine ni celle d'après. Les banques, bien sûr. La santé, pareil, ça va déréguler à mort. En fait, tout ce qui est, au sens large, made in USA. Tout ce qui est made in USA, America first. Donc, en fait, l'industrie au sens large. Simplement, attention à la défense. Notamment si l'administration de Trump arrive à mettre un terme à un certain nombre de conflits. Les États-Unis vendront toujours des armes. Mais attention, un secteur qui a déjà bien monté. Donc, pour moi, et idem pour le secteur de l'énergie, où finalement, sous la première administration Trump, ça n'avait pas tant monté que ça. Je pense que ce qu'il y a de plus évident, c'est finance et crypto-monnaie, santé, certaines parties de l'industrie, où vraiment, Trump joue le made in USA, comme par exemple l'industrie automobile. Voilà, allez vraiment sur les choses les plus évidentes. Et nous terminons par le marché action S&P 500, le traditionnel point d'analyse technique. Et donc là, je suis content, puisque tout ce que je vous propose... j'en ai dit des bêtises. Bien sûr que je me suis planté sur un certain nombre de sujets, mais j'assume toujours. Mais donc, comme j'assume mes erreurs, eh bien, je mets aussi en avant quand j'ai raison. Et donc, pour le S&P 500, depuis des mois et des mois, je vous propose un décompte Elliottiste qui suit son cours. Et je suis content de voir que la victoire de Donald Trump entretient mon scénario d'une vague 5. Ma cible des 6000 points, elle est quasiment faite au moment où j'enregistre cette vidéo. Donc, on reprend comme d'habitude tous les horizons de temps. Où en sommes-nous ? En données mensuelles, pour moi, la fin du bull market sera en 2025, lorsqu'il y aura des divergences baissières en mensuel, et il n'y en a toujours pas. En données hebdomadaires, nous sommes donc dans un marché, alors, une vague 1, une vague 2, une grande vague 3 dans laquelle vous avez eu 5 temps, une vague 4, nous sommes dans la vague 5. La vague 5 que je vois culminer l'année prochaine aux alentours des 6400 points, ce qui ne veut pas dire que d'abord il y aura un retracement comme d'habitude, hein, c'est impulsion, range, retracement, impulsion, retracement, impulsion, retracement, impulsion, retracement, impulsion, retracement, impulsion, retracement, voilà, c'est encore une fois. Donc ça c'est le décompte de fond, et donc nous sommes, si j'affine, dans cette vague 5, à l'intérieur de laquelle nous avons fait la 1, la 2, nous sommes actuellement en train de sous-décomposer les vagues de la 3, de la 5, vous avez compris. Nous sommes dans la 3, de la 5. 6000 points devraient représenter quand même une barrière de prise de profit, comme d'habitude, petite conso, range, et ça repartira. Et je pense qu'on terminera la fin d'année au-dessus des 6000 points, mais ça j'aurai l'occasion de mettre à jour ça chaque lundi, donc d'ici la fin de l'année, chers amis. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez passé un bon moment. Si c'est le cas, mettez un petit like ou vous abonner si vous avez envie. Et puis, je vous souhaite une excellente semaine. Merci de m'avoir écouté.